Le siècle précédent a connu quelques tyrans qui se sont distingués par la quantité incommensurable de sang qu'ils ont versé. On peut citer pêle-mêle Idi Amin, Pol Pot ou Mao Tse-kung. Mais je crois qu'en tête de liste de ce sinistre palmarès, on est obligé d'inscrire Staline et Hitler. Et si on remonte dans le temps, il faut alors beaucoup d'encre pour écrire les noms de tous les despotes sanguinaires que notre pauvre monde a dû supporter. Tous ceux qui ont fréquenté les bancs de l'école ont entendu parler d'Attila, surnommé le fléau de Dieu, ou de Néron, célèbre pour avoir brûlé Rome et ensanglanté l'Empire romain en persécutant les chrétiens. Or, ce triste personnage possède une sorte de sodie qui s'appelle Antiochus IV Épiphane, et que certains ont surnommé le Néron de l'histoire juive. J'ai déjà parlé de ce monstre assoiffé de sang, et il est à nouveau question de lui dans le chapitre 8 de Daniel. Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné, tous les interprètes le reconnaissent dans la petite corne de ce nouveau chapitre. Maintenant, on peut se demander comment s'articule le chapitre 8 avec la prophétie du chapitre précédent qui décrit quatre bêtes ou monarchies universelles. Ces interprètes d'obédience évangélique considèrent le chapitre 8 comme une nouvelle prophétie de Daniel destinée à préciser la précédente et plus particulièrement ce qui concerne les empires médo-perses et grecs, et surtout à décrire l'attitude hostile que l'un des rejetons de l'Empire grec adoptera à l'égard du peuple de Dieu, c'est-à-dire des Juifs. Pour ceux, par contre, qui n'acceptent pas que Daniel soit l'auteur du livre qui porte son nom, le chapitre 8 aurait été composé par un écrivain historien postérieur à Daniel suite à la persécution orchestrée par cet infâme Antiochus Épiphane. Puis après coup, il aurait rattaché le chapitre 8 à la prophétie du chapitre 7. Cet auteur inconnu se serait inspiré du langage imagé décrivant les quatre bêtes pour dépeindre Antiochus par des couleurs analogues et à faire ainsi un archétype de l'Antichrist encore à venir. Mais en réalité, la véritable raison de ce point de vue, qui est tout à fait intenable, est une mauvaise foi flagrante. Le refus de croire que Dieu intervient dans les affaires humaines et annonce davantage à ses prophètes ce qui va se passer dans la suite des temps. Une telle incrédulité me fait penser qu'au XIXe siècle, certains érudits se demandaient si c'était bien Shakespeare qui avait écrit toutes les œuvres signées par lui. À cette époque, l'écrivain humoristique et satirique Mark Twain se jette dans la mêlée et donne son opinion éclairée quand il dit « Si Shakespeare n'a pas écrit Shakespeare, ça a dû être un autre homme, pourtant il a le même nom. » On peut dire exactement la même chose du livre de Daniel. Dans le chapitre 8, Daniel ne rattache pas la disparition de la petite corne à la venue du règne messianique qui pourtant suit immédiatement la destruction de la petite corne du chapitre 7 comme nous l'avons vu. Par ailleurs, alors que la petite corne du chapitre 7 sort du milieu des 10 cornes de la quatrième bête, celle du chapitre 8 est issue de l'une des 4 cornes d'un bouc. Il est donc absolument impossible que la petite corne du chapitre 7 puisse être confondue avec celle du chapitre 8. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple quand on a le texte sous les yeux. Bien que les deux petites cornes du chapitre 7 et 8 ont beaucoup de points communs, en réalité, elles désignent deux personnages entièrement différents. Dans le chapitre 7, il s'agit de l'Antichrist et dans le chapitre 8, c'est Antiochus Épiphane. Dans le chapitre 7, la Grèce apparaît sous les traits d'un léopard à 4 têtes et dans le chapitre 8, la Grèce est représentée par un bouc. Sous la domination de ce troisième empire universel a lieu une persécution qui annonce celle qui, dans le chapitre 7, précède la fin de la quatrième bête, c'est-à-dire la troisième phase de l'Empire romain. Chronologiquement parlant, le chapitre 8 ne suit pas le précédent, alors que la vision du chapitre 7 est pour nous prophétique et s'accomplira à la fin des temps, les événements du chapitre 8 se sont déjà accomplis. Le chapitre 8 décrit d'abord le conflit entre le bélier et le bouc, c'est-à-dire entre les empires médos, perses et grecs, entre l'Orient et l'Occident, entre l'Asie et l'Europe. Après le triomphe du bouc, qui représente la Grèce, on voit une petite corne, c'est-à-dire Antiochus, qui sort de cet empire. Le chapitre 8 mentionne sa mort, qui a eu lieu en l'an 164 avant Jésus-Christ, suite aux brillantes victoires militaires que les Juifs ont remportées sur les Syriens. Après ces préliminaires complexes, je commence à lire le chapitre 8 du livre de Daniel. La troisième année du règne du roi Balthazar, moi, Daniel, j'eus une nouvelle vision après celle que j'avais eue précédemment. À partir d'ici, et jusqu'à la fin du livre, le texte est en hébreu et non plus en araméen. Daniel reçoit une nouvelle vision sans préciser que c'est la nuit, ce qui suggère qu'il expérimente une transe prophétique dans la journée, probablement le matin, tandis qu'il est en prière. Je continue. Je regardais, et je me voyais dans la cité fortifiée de Suse, dans la province d'Elam, et, dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulaï. Daniel ne se retrouve pas réellement à Suse, mais il est emmené en esprit. C'est ainsi ce qui est arrivé aussi à Ézéchiel, quand il dit « L'Esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple. » Suse, qui est située entre deux rivières, à environ 400 km à l'est de Babylone, est toujours appelée la forteresse dans l'Ancien Testament. D'après l'historien Hérodote et les registres assyriens, cette ville est très ancienne. Cyrus, roi de Perse, y réside 3 mois par an, puis son successeur Darius Ier l'agrandit et l'embellit et en fait la capitale de son empire. La province d'Elam est située entre Babylone, la Perse et le golfe Persique et fait partie de l'empire assyrien. Si Daniel reçoit cette vision à Suse et non à Babylone, c'est parce qu'il concerne les empires perses et grecs, et non plus Babylone. Je continue le texte. Je levai les yeux, et je vis un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait 2 très hautes cornes. L'une d'elles, celle qui avait poussé la dernière, était plus grande que l'autre. Plus loin, on apprend que cette image représente l'empire des Mèdes et des Perses. Pendant longtemps, les Mèdes dominent les Perses qui leur est subordonné. Mais ces derniers prennent progressivement la prépondérance et absorbent complètement les Mèdes. Pour cette raison, Daniel dit que la corne qui a poussé la dernière est plus grande que la première. Cette description de l'empire médo-perse rappelle la vision du chapitre 7 quand Daniel écrit « Et voici que surgit une deuxième bête ressemblant à un ours, elle était dressée sur un côté. » Je continue le texte. « Je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud, et aucune bête ne pouvait lui résister ni lui échapper. Il agissait à sa guise et il grandissait. » Quand les rois perses partent en guerre, ils portent une tête de bélier à la place de leur diadème habituel. Ce verset résume de façon très concise l'histoire des conquêtes perses et surtout de Cyrus. Ses campagnes vont d'est en ouest, vers le sud et vers le nord. Les conquêtes sont rapides, mais ses succès militaires sont l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe à son sujet, je la rappelle. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi, j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans des lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi, l'Éternel, moi qui t'appelle de ton nom, moi, le Dieu d'Israël. Quand, dans la vision du chapitre 7, la deuxième bête, c'est-à-dire l'Empire Médo-Perse, est comparée à un ours, Daniel dit qu'elle tient trois côtes dans sa gueule. Puis il ajoute, « J'entendis qu'on lui disait, « Debout, mange beaucoup de chair. » Ces trois côtes représentent les trois points cardinaux, Est, Sud et Nord. Et Lord, « mange beaucoup de chair » signifie « conquiert beaucoup de nations ». Je continue. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Il avait une corde prééminente entre les deux yeux. Cette corne est Alexandre le Grand. Avec son armée de seulement 35 000 hommes, il se déplace à une vitesse fulgurante au point où on dit de lui qu'il ne touche pas terre. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, Alexandre est comparé à un léopard ailé. Je rappelle le passage. Je continuais à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec quatre ailes d'oiseau sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. Parmi les animaux domestiques, le bélier et le bouc présentent le même contraste que l'ours et le léopard. Au sein des animaux sauvages, le bélier et l'ours sont lourds et massifs, alors que le bouc et le léopard sont agiles et fougueux, surtout si en plus ce dernier a des ailes. Je continue. Il parvint jusqu'au bélier à deux cornes que j'avais vu devant le fleuve et se précipita sur lui avec violence. Je le vis arriver à sa hauteur et s'enrager contre lui. Il le frappa et brisa ses deux cornes. Le bélier n'eut pas la force de lui résister. Le bouc le jeta à terre et le piétina. Personne ne vint délivrer le bélier du bouc. Ici, il faut faire un peu d'histoire. C'est en l'an 492 avant Jésus-Christ que commence l'effondrement entre la Perse et la Grèce. Les Perses de Darius Ier cherchent à annexer la Grèce. Ils traversent le détroit du Bosphore et obtiennent un certain nombre de succès militaires, en particulier contre la Macédoine, la partie d'Alexandre le Grand. Mais leur flotte était détruite par une tempête. Ils sont forcés d'abandonner leur conquête et retournent en Perse. Deux ans plus tard, Darius repart à la charge, mais cette fois-ci, il subit une cuisante défaite à Marathon, aux mains des Athéniens aidés par plusieurs autres villes-états grecques. Plus tard, son successeur, Xerxès Ier, décide de venger l'honneur de la Perse et attaque la Grèce. En 480 avant Jésus-Christ, il est péniblement vainqueur à Thermopylae, mais son énorme flotte de 400 navires perd plus de la moitié de ses effectifs dans une bataille navale dans le détroit de Salamine en 480 près d'Athènes, alors que les Grecs ne perdent que 40 navires. Xerxès est alors obligé de rentrer chez lui la queue entre les jambes, pour ainsi dire. Plus tard, son fils Artaxerxès arrive à mater une révolte égyptienne soutenue par la Grèce. Mais ce conflit marque le début d'un long déclin de l'Empire perse. Pendant ce temps, Grèce, Athènes, étend son influence à toutes les villes du pourtour de la mer Égée. Mais son hégémonie se heurte aux ambitions de Sparte, ce qui déclenche la guerre des Péloponnèses, qui dure presque 30 ans. Philippe II de Macédoine profite alors de l'épuisement de ces deux villes-États pour s'imposer et devenir le nouveau maître de toute la région. Son fils s'appelle Alexandre le Grand, et c'est lui qui, en l'espace de 4 ans, remporte une série de victoires contre la Perse de Darius III, dont une décisive en l'an 333 avant Jésus-Christ. Et c'est ainsi que le bouc a vaincu le bélier. Je continue le texte. Le bouc devint plus grand, mais lorsqu'il était encore en pleine vigueur, sa grande corne fut soudain brisée. Quatre cornes prééminentes poussèrent à sa place vers les quatre coins de l'horizon. Immédiatement après ces rapides conquêtes, Alexandre revient à Babylone et commence à organiser son immense empire de manière à pouvoir l'administrer efficacement. Il est en pleine force car il n'a que 33 ans. Comme il aime beaucoup faire la fête, il s'offre une grande nuit de partouze suite à laquelle, atteint d'une méchante fièvre, il meurt subitement. La grande corne étant brisée, elle est remplacée par quatre autres qui sont les quatre généraux d'Alexandre. Dans le chapitre précédent, ils sont décrits par les quatre têtes de léopard. Ces quatre hommes prennent le titre de roi, se font d'abord la guerre, puis finissent par se partager l'immense empire d'Alexandre le Grand, 22 ans après sa mort. Je continue le texte. De l'une d'elles, des quatre cornes, sortit une très petite corne qui grandit démesurément vers le sud, vers l'est et vers le pays magnifique. Le pays magnifique est Israël. La grande corne brisée a donné naissance à quatre autres, et l'une d'entre elles surgit alors une petite corne. Comme je ne cesse de le dire, il ne faut pas la confondre avec la petite corne du chapitre précédent qui représente l'Antichrist et tout le commentateur qui considère que la grande corne désigne Alexandre le Grand reconnaissent Antiochus IV Épiphane. Dans cette nouvelle petite corne, ce monstre est issu de la dynastie des Séleucides, fondée par Séleucus, l'un des quatre généraux d'Alexandre. Ce général réussit à ajouter la Syrie à son patrimoine, mais il meurt assassiné. Il laisse derrière lui un territoire qui s'étend de la Méditerranée aux Indes et du Pakistan au golfe Persique. Mais à partir de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'influence de la dynastie Séleucide commence à décroître et son empire à s'effriter, jusqu'à finir par se réduire à la Syrie, qui sera conquise par le Romain Pompée. Mais entre-temps, l'un des rois Séleucides est l'infâme Antiochus IV Épiphane, qui est, comme je l'ai déjà dit, une préfiguration de l'Antichrist. La prochaine petite corne, encore à venir. Antiochus fait la guerre à l'Égypte et obtient la Palestine. Après cette victoire, non seulement il supprime le pouvoir politique du peuple d'Israël, mais encore et surtout, il essaye de faire disparaître ce qui le distingue de tous les autres peuples, c'est-à-dire tout ce qui concerne la loi de Moïse et le culte à l'Éternel. C'est pourquoi dans le livre apocryphe des Maccabées, il est appelé un rejeton impie. Il fait d'Antioche sa capitale, d'où il lance des expéditions militaires contre l'Égypte, mais il va aussi en Babylonie et en Perse, car il ne manque pas d'ambition expansionniste. La famille de prêtres juifs, les Maccabées, met une guerre d'attrition contre lui et après d'innombrables détresses, réussit à défaire les armées syriennes. Je continue le texte. La petite corne grandit démesurément vers le pays magnifique. Elle grandit jusqu'à s'attaquer à l'armée céleste. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et une partie des étoiles, elle les piétina. L'expression hébreu traduite par l'armée céleste fait un jeu de mots avec pays magnifique. Elle désigne habituellement les anges ou les étoiles. Mais ici, elle s'applique au peuple saint, c'est-à-dire les Juifs. Car Israël était choisi par l'Éternel pour faire briller la lumière de la connaissance de Dieu au sein des ténèbres païennes. Les étoiles piétinées, qui tout d'abord font penser à l'oppression et au massacre des Juifs fidèles, orchestrés par Antiochus Épiphane, cependant. Comme la suite du texte parle de la révolte du peuple contre Dieu, ces étoiles piétinées, dont la lumière est désormais éteinte, représentent les Juifs qui renient l'Éternel en devenant idolâtres et en se fondant avec les païens. Jésus a dit à ceux qui désiraient le suivre, « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » Je continue de lire dans le chapitre 8 du livre de Daniel. Elle, la petite corne, s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel. Le prince de l'armée céleste n'est pas le grand prêtre d'Israël, ni Michaël, l'ange chargé de veiller sur le peuple élu, et qui est mentionné plus loin. Il s'agit de l'Éternel lui-même, ou bien de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que le texte mentionne son culte. Or, le temple et tous les objets sacrés sont la propriété exclusive de Dieu, et seuls les Israélites issus de la tribu de Lévi ont le droit de les toucher, et seuls les prêtres peuvent les utiliser. La petite corne mit fin au sacrifice perpétuel. Littéralement, mit fin au perpétuel. Une expression idiomatique qui désigne une cérémonie quotidienne du culte juif établi par Moïse et surtout l'Holocauste qui est offert soir et matin et qui constitue le cœur du culte à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons le privilège de ne plus être soumis au régime de la loi de Moïse avec ses innombrables règles, sa liturgie extrêmement lourde, son cérémonial et ses sacrifices continuels. Mais cela n'empêche pas que nous devons avoir la plus grande révérence pour Dieu.